Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez à 11h sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Luc Calazo, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Leridon et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Dernier temps de notre semaine consacrée au déconfinement des colères. Colère sociale, le grand déconfinement, c'est notre série cette semaine. Après avoir parlé des manifestations contre les violences policières à l'égard des Noirs aux États-Unis, des contestations à Hong Kong, du Irak algérien hier, place ce matin au Liban.
Si les autorités veulent que l'on respecte le confinement, elles doivent jouer leur rôle et donner aux citoyens de quoi manger. Je préfère mourir du coronavirus plutôt qu'à cause des décisions des membres du Parlement qui me tuent à petit feu.
On a appelé à l'aide la Banque mondiale, le FMI, pour nous accorder des prêts à nouveau. Ça va seulement nous endetter encore plus, encourager encore plus de privatisation. Je ne crois pas que cela puisse nous aider.
Tant qu'il y aura des milices plus fortes que l'État, le gouvernement ne pourra pas lutter contre la corruption. Tant qu'il y aura des chefs politiques plus forts que l'État, il ne pourra pas lutter contre la corruption. Nous réclamons un État libanais plus fort que les milices, que l'armée soit en charge de tout le pays pour reconstruire l'économie.
En octobre 2019, le pays du Cèdre se lance corps et âme dans une révolution dont les mots d'ordre, pour la première fois, semblent s'affranchir du confessionnalisme qui immobilise le pays. L'étincelle était venue d'une taxe sur la messagerie WhatsApp, mais très vite, les manifestants ont exigé le départ du gouvernement et la mise en place de réformes de profondeur. Ce fut chose faite, notamment avec la démission du Premier ministre Saad Hariri et la nomination assez laborieuse d'un nouveau gouvernement. Mais avec le confinement, la mobilisation était un peu retombée jusqu'à ce que, samedi dernier, elle reprenne. En effet, la crainte du virus et les préoccupations du quotidien avaient temporairement étouffé la colère du peuple ces dernières semaines, malgré quelques explosions de colère ça et là. Sur le plan économique et financier, la situation est catastrophique. La livre libanaise s'est effondrée, l'inflation est galopante et le Premier ministre a fait savoir que pour la première fois de son histoire, le Liban se retrouvait en défaut de paiement. Alors, l'urgence économique et sociale aura-t-elle raison des aspirations de réformes politiques et institutionnelles des premiers temps de la révolte? Les appartenances confessionnelles vont-elles reprendre le pas sur la belle unité du début du mouvement? Et d'ailleurs, l'influence des partis religieux avait-elle seulement été menacée? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Aurélie Daher. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignante-chercheuse à Paris Dauphine, à Sciences Po. Vous aviez signé en 2014 au PUF le Hezbollah, Mobilisation et Pouvoir. Avec nous également, Ziad Majed. Bonjour.
Ziad Majed, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes politiste, professeur à l'Université américaine de Paris. Vous aviez signé, c'était il y a 2 ans chez Actes Sud, dans la tête de Bachar el-Assad, la Syrie, quand on parle du Liban, elle est jamais si loin que ça. On y reviendra probablement. D'abord sur la crise sanitaire et les effets qu'elle a eu peut-être sur cette mobilisation, parce que les Libanais, je l'ai dit, avaient entamé ce grand mouvement de révolte sans précédent à l'automne dernier. Beaucoup d'observateurs avaient parlé d'un mouvement historique, notamment dans son aspiration à dépasser les clivages confessionnels qui structurent traditionnellement le paysage politique. Et puis on a eu cette crise sanitaire qui a marqué un vrai coup d'arrêt évidemment pour ces manifestations, même s'il y en a eu quand même ça et là. Les voilà, ils semblent maintenant de retour. Qu'est-ce qui a changé avec ce Covid à cette révolte, à la fois dans la forme mais aussi peut-être dans les contenus des revendications? Commençons par vous, Aurélie Daher.
Oui, effectivement, le Covid a mis une pause nette et certaine à un certain nombre de manifestations qui avaient encore lieu. Donc, on parle du début de l'année. Mais même déjà avant le Covid, il faut quand même être un peu rigoureux ici. Avant le Covid, déjà, le mouvement s'était essoufflé. Il s'est essoufflé pour une raison qui est simple, c'est qu'il a pas mal muté. Les manifestants, les manifestations, les raisons pour lesquelles ont manifesté au mois d'octobre ne sont plus tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. On est quand même passé par plusieurs phases. On a eu une première phase effectivement, donc autour de, comme vous l'avez mentionné, hein, la taxe WhatsApp qui a mis finalement dans la rue des gens qui étaient là pour protester essentiellement autour d'un problème socio-économique. C'était vraiment apartisan, transconfessionnel. Puis il y a eu donc ce deuxième moment où on a essayé de transformer ça en justement un point de politique publique. Donc là, on a essayé de passer, de translater ça de l'économique aux politiques. On a très rapidement vu qu'il y avait un blocage en termes de reformulation, capacité à reformuler. Ça a justement un nouveau débat politique avec une nouvelle grille de lecture politique. Donc on s'est rabattu sur les anciennes grilles de lecture, les anciennes fractures, 14 mars, 8 mars, pro-syrien, anti-syrien, pro-Hezbollah, anti-Hezbollah. Et donc là, on a ouvert la porte, évidemment, aux partis politiques traditionnels. Et très rapidement, du moment qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On communautarise. Et donc finalement, les motifs et les récits expliquant la mobilisation ont beaucoup changé. Et puis, il y a aussi eu un certain nombre de choses qui ont retiré une grande partie des partisans des places de la protestation. On a eu effectivement le coup de sifflet donné par Hassan Nasrallah, donc le secrétaire général du Hezbollah, qui, au cours de son second discours sur la situation, a appelé les chiites à sortir du mouvement protestataire. Et là, effectivement, le mouvement a été plutôt bien suivi. Donc là, on a perdu beaucoup de chiites au sein donc de la protestation. Et puis il y a aussi une idée qui a fait son chemin, qui est que au moment où Hariri a démissionné, on a commencé à chercher un nouveau premier ministrable, et comme vous l'avez dit, ça a été un processus extrêmement compliqué. Il y a eu plusieurs noms qui ont été avancés, et à chaque fois, donc les protestataires ont dit non, non, non. C'est conjugué à cela donc le blocage des banques, le démarrage de la crise bancaire. Et puis il y a une idée qui a fait son chemin. Alors à juste titre, à mauvais titre, enfin c'est pas la question. Hein, on est en train de parler de perception. Mais une idée qui a fait son chemin, qui est que finalement, il y a beaucoup de protestataires qui se sont dit, mais en fait, tant qu'on continuera à être aussi bloqué, à dire non, non, non à chaque premier ministrable, tant qu'on n'aura pas de nouveau gouvernement, en fait, on n'arrivera pas à débloquer les banques ne reprendront pas leur activité. Au bout d'un mois, deux mois, trois mois sans salaire, pour plein de gens, ce n'est plus tenable. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont retirés de la protestation en disant, on prend un premier ministre, même s'il est, médiocre, mais il va falloir, avant tout, finalement, la priorité, ça va être gérer le problème des banques avant le problème politique.
Évidemment, il y a cette urgence économique, cette urgence bancaire, cette urgence financière. Ziad Majed, sur les transformations peut-être effectivement de ce mouvement, c'est vrai que là on a un pays qui est dans un état absolument catastrophique, avec une dette à plus de 90 milliards de dollars, c'est 70% du PIB, c'est colossal. On va appeler le FMI à l'aide, on est en pleine discussion, on ne sait pas d'ailleurs où est-ce qu'on en est, mais peut-être qu'on en parlera. Mais on est dans une situation catastrophique. Est-ce qu'il n'y a pas le risque là, Ziad Majed, qu'au fond, l'urgence économique, l'urgence financière l'emporte sur tout le reste, et notamment les belles aspirations politiques du début?
Oui, certainement. La crise économique, financière, la catastrophe que traverse le pays aujourd'hui, avec un dollar qui est arrivé au niveau du marché noir à 5000 livres libanaises, il n'était qu'à 1500 il y a quelques mois, avec les salaires qui ne seront pas toujours payés, avec les dépôts des Libanais qui sont gelés dans les banques ou qui, selon certains, n'existent même plus. Il y a évidemment une crise économique aiguë et je ne vois pas la sortie dans les prochaines années, ce qui va contenir l'élan politique et qui va diriger les gens beaucoup plus vers les questions de survie. Parfois, ça rappelle un peu des épisodes même du déclin ou de la faillite économique et financière durant la guerre dans les années 80, quand la plus grande dévaluation de la livre libanaise a eu lieu. Donc il peut y avoir à ce niveau-là beaucoup plus dans les prochaines années des efforts de la part de la société et des individus à vouloir survivre, à trouver de nouveaux moyens pour avoir des revenus, etc. Ce qui va affaiblir peut-être certaines revendications de réformes politiques radicales, comme ce fut le cas au début de la contestation, notamment par rapport à la laïcité, par rapport à la nécessité de renouveler la classe politique qui est là depuis les années 90 et pour certains depuis les années 80, puisqu'ils étaient eux-mêmes chefs de milice durant la guerre civile. Mais en même temps, il faut rappeler que l'essoufflement ou la difficulté actuelle, comme l'avait signalé Aurélie Daher, n'avait pas commencé juste avec le corona. Elle avait en fait commencé en novembre, quelques semaines après le début du soulèvement populaire libanais, avec la contre-révolution qu'a menée Hezbollah en envoyant ses ces milices, sans armes, mais juste avec ses alliés, le mouvement Hamal, attaquer les manifestants, détruire leurs tentes Place des Martyrs, avec un discours extrêmement agressif de la part du secrétaire général qui a accusé les manifestants d'être des instruments de complot impérialiste, sioniste, l'habitude des discours de ce genre. Et elle a été, cette contre-révolution, consolidée par la formation d'un nouveau gouvernement, contrôlé encore une fois par Hezbollah et par certains anciens du système sécuritaire syro-libanais, et en plus avec une incapacité au niveau des manifestants de former un camp unique, un leadership capable de faire la coordination, de proposer des alternatives, et évidemment dans un pays où il y a toujours des clivages capables de prendre de temps à autre le dessus sur les revendications politiques qui ne sont pas organisées ou institutionnalisées dans des partis ou dans des mouvements solides, les anciens clivages ont été de retour et la confessionnalisation s'est vue de nouveau imposée. Ouais. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a toujours des contestations qui réclament des questions politiques, et il y a la colère de plus en plus contre les banques qui ont accumulé des milliards de dollars pendant des années et qui aujourd'hui ne donnent pas aux gens leur argent, leurs dépôts, et c'est humiliant pour des millions de Libanais.
Et d'ailleurs, cet argent qui a permis d'alimenter ce système clientéliste, et on y reviendra peut-être, mais si le FMI accorde son prêt, ce sera forcément sous condition, et peut-être que ça pourrait avoir justement des effets sur ce système de financement qui pose problème. Mais il y a évidemment un point sur lequel il faut absolument s'arrêter, Aurélie Dair, parce qu'en réalité, on est là au cœur des enjeux actuels au Liban. C'est la question de la place du Hezbollah. Ziad Majel parle d'une contre-révolution du Hezbollah. Est-ce que vous... Je crois que vous n'avez pas exactement la même vision des choses, et notamment la même vision de ce que le Hezbollah a aujourd'hui comme place dans ce nouveau gouvernement dirigé par Hassan Diab, qui a été effectivement désigné de façon assez laborieuse. Aurélie Daher, est-ce que vous êtes là?
Pour avoir suivi dans le détail... Oui, vous m'entendez?
Oui, je vous entends, ça y est, très bien, allez-y.
Allô? Allô, est-ce que oui, vous m'entendez? C'est bon.
On vous entend parfaitement.
Oui, je suis désolée.
Vous êtes à l'antenne, il n'y a pas de problème.
Oui, je disais, en fait, bon, bien sûr que. Ah, super. Je veux dire, effectivement, le Hezbollah a bien évidemment son mot à dire et beaucoup de mots à dire dans ce qui se passe au niveau du gouvernement. Mais pour avoir suivi, en l'occurrence, la formation du gouvernement et les tractations qui ont mené à la formation du gouvernement, le choix de Hassan Diab, donc ça, c'était aux alentours de Noël, un peu avant. En fait, le gouvernement est plus un produit d'un tandem chiito-chrétien. En l'occurrence, c'est le produit essentiellement d'accords d'entente, de choix qui sont faits entre le deuxième grand parti politique chiite Hamal et puis le premier parti politique chrétien, donc le Courant Patriotique Libre de Michel Aoun et de son gendre Gebran Bassil. Le Hezbollah dans cette affaire a plutôt joué le rôle distributeur de bons pour accords, c'est-à-dire je vous laisse faire vos choix, je vous laisse choisir vos ministrables, distribuer les portefeuilles, et puis je dirais si oui ou non je suis d'accord. Il faut quand même pas oublier deux choses. D'abord que le Hezbollah tient les leviers, en tout cas les leviers qui l'intéressent, et pas tous les leviers de la politique libanaise, mais uniquement les leviers qui l'intéressent, déjà depuis 2011. 2018, les élections législatives, certes, ont confirmé de manière claire, nette, on va dire, la préférence d'une majorité des Libanais pour les options idéologiques du Hezbollah, au détriment donc du 14 mars, ou du moins ce qu'il en reste. Ça, c'est la première chose. Donc il y a une espèce de continuité, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut pas voir ce qui s'est passé donc à Noël avec l'avènement du gouvernement de Diab comme une nouvelle victoire du Hezbollah. Une victoire, ça s'obtient quand il y a une bataille. Là, il y a pas de bataille. Le Hezbollah a la main sur les leviers, donc c'est envie de dire, c'est business as usual. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Hezbollah ne fonctionne pas comme un parti de gouvernement. C'est-à-dire que l'erreur, c'est de croire que le Hezbollah cherche à prendre le pouvoir, tout le pouvoir, pour tout gérer, pour gouverner le Liban. Primo, si c'était vraiment le cas, il serait très ennuyé, parce que d'abord, je pense que le Hezbollah, sur beaucoup de sujets, n'a absolument pas la moindre idée de ce qu'il faudrait faire pour sauver le Liban et pour gérer le Liban, commencer sur le plan économique. En cela, c'est un parti libanais classique, parce que les autres partis libanais n'ont pas de meilleures idées non plus sur comment il faudrait gérer les bancs et ce qu'il faudrait faire pour le sortir de sa mouise. C'est un parti, le Hezbollah, il faut le concevoir comme un lobby. C'est-à-dire, le Hezbollah, c'est une organisation qui a une seule et unique vraie raison d'être politique, qui est de défendre au sein de l'appareil politique, au niveau des institutions, auprès de la société, les intérêts d'une organisation militaire, la résistance islamique, ou ce que l'Occident appelle le bras armé du Hezbollah. Donc, si vous voulez, tant qu'on n'enquiquine pas la résistance islamique, grosso modo, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais les portefeuilles en soi, l'accès aux ressources clientélisables que peut présenter l'État à travers les portefeuilles ministériels, à travers les marchés publics, etc., ça l'intéresse pas. Par ailleurs, il n'a pas besoin de cet argent-là, puisqu'il a ses rentrées par ailleurs, qui ne dépendent pas du tout de l'État libanais. Donc finalement, de manière très intelligente, il laisse ça à ses alliés, et en échange justement d'un soutien, d'une loyauté. C'est grosso modo, je vous laisse Amal, je vous laisse Courant Patriotique Libre, je vous laisse Frangie, je vous laisse bref tous mes alliés politiques, prendre tout ce qu'il y a à prendre au niveau de l'État libanais, en échange, vous me soutenez, moi je ne serai pas un rival au niveau des ressources étatiques, au niveau des portefeuilles, et même au niveau de la gestion de l'État. Mais une seule chose, je garde un œil quand même très attentif sur ce que vous faites, dans le sens où il ne faudrait pas que ce que vous faites, ce que vous choisissez, les personnes que vous choisissez, puissent un jour mettre en péril les intérêts de la résistance islamique.
Alors, on comprend bien, Aurélie Daher, effectivement, votre vision des choses, c'est-à-dire cette idée, au fond, selon laquelle le Hezbollah ne serait pas là en tant que parti de gouvernance, qu'il serait plus dans une logique de lobbying et que, d'une certaine manière, il s'agirait pour lui, d'abord et avant tout, de défendre ses intérêts et son précaré, et notamment le champ sécuritaire, évidemment, et qu'il laisserait aux autres le reste, et notamment le soin de gouverner, alors mal gouverner, mais en tout cas de gouverner. Ziad Majed, sur cette perspective qui nous est proposée par Aurélie Daher.
Oui, tout à fait. Hezbollah a deux priorités dans le pays. D'un côté, d'avoir une mainmise sur certains services de renseignement et sur certaines institutions sécuritaires clés de l'État libanais, chose faite depuis l'hégémonie syrienne et qui s'est poursuivie avec quelques difficultés de temps à autre, vu le confessionnalisme et parfois les allégeances de certains officiers et responsables sécuritaires. Et la deuxième priorité, c'est que son armée, sa milice, la résistance islamique, reste capable de participer et de se déployer là où l'Iran le décide et le souhaite. On le voit en Syrie depuis 2012, où le parti a envoyé des milliers de combattants pour soutenir le régime Assad et combattre les oppositions syriennes. On le voit à travers certains conseillers militaires qui sont présents en Irak, certains même évoquent le Yémen. Donc il veut rester libre au niveau de sa capacité d'intervenir dans les conflits régionaux au service de la stratégie iranienne, une stratégie qui était en progrès sur le terrain depuis des années.
Mais Ziad Majed, j'ai une petite question, si vous le permettez, Ziad Majed. J'entends évidemment, ça c'est la position du Hezbollah, mais quid des Libanais, des Libanaises? Il y a toujours eu cet antagonisme très fort entre, d'un côté, ceux qui sont favorables à cette influence syrienne et d'autres ceux qui la rejettent. On l'a vu il y a évidemment une quinzaine d'années à la suite de l'assassinat de Rafik Hariri qui provoque toute une série de mobilisations avec d'un côté cette alliance du 8 mars qu'évoquait tout à l'heure Aurélie Daher pro-syrienne et puis cette alliance du 14 mars anti-syrienne. Mais si on sort, j'allais dire, des appareils politiques, est-ce que cette fracture pro-Syrie et anti-Syrie, elle existe aujourd'hui, et notamment dans les mobilisations. Est-ce qu'elle persiste ou est-ce qu'en réalité, elle est largement dépassée et qu'on est là dans des considérations politiciennes?
Oui, alors, juste pour compléter
l'idée,
avec la stratégie iranienne, il y a aussi le fait que le parti a une base populaire au Liban, il a une légitimité populaire, et c'est vrai qu'il laisse à ses alliés gérer les questions économiques, certaines questions de services que l'État, à travers ses réseaux clientélistes, distribue. Mais il faut dire aussi que parmi les alliés du parti, il y a certains des plus corrompus, ou bien du moins certains qui sont accusés de la plus grande corruption qu'a connue le pays ces dernières années. Et donc, il ne peut pas se considérer non concerné par la question de la gestion interne, puisque sa délégation à ses alliés de gérer, parlons de l'électricité par exemple, qui a été dans les mains de ses alliés depuis de longues années, le fait que les gouvernements à partir de 2011, on and off, ont été sous son contrôle politique ou sous son hégémonie politique, fait qu'il est responsable aussi de la crise actuelle, même si les autres, ceux qui étaient au 14 mars ou toute leur politique et la corruption était aussi au sein de leur culture du pouvoir, mais il est bien concerné et il peut être accusé par les Libanais de faire partie de cette élite politique puisqu'il est au pouvoir depuis 2005 directement et qu'il a des parlementaires depuis 92 qui n'ont jamais voté contre un budget, contre une politique financière des Hariri et contre ce qui se passait au niveau de la gestion catastrophique des ressources de l'État. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que la fracture autour du régime syrien est dépassé dans le sens où le régime syrien n'est plus un acteur incontournable dans la région. C'est l'Iran maintenant. Donc il peut y avoir une fracture autour de la position par rapport à l'Iran. Et cela ne veut pas dire que tous les manifestants qui sont opposés à Hezbollah sont animés par leur identité confessionnelle sunnite ou chrétienne opposée aux autres chrétiens du courant patriotique libre. Loin de là, il y a certainement des questions confessionnelles qui peuvent peser et qui peuvent mobiliser. Mais il y a une grande partie des manifestants qui sont opposés à l'Iran, mais également opposés à la politique saoudienne dans la région et au fait que le Liban reste piégé par les confrontations régionales. À chaque fois qu'il y a ce genre de confrontation, il y a des échos et il y a des conséquences, des implications sur la scène libanaise. Donc une partie des manifestants et des Libanais aujourd'hui veut surtout se retirer, se détacher des conflits régionaux qui pèsent de plus en plus et qui ont eu des conséquences économiques et financières ces 4 ou 5 dernières années, contribuant ainsi à la catastrophe que le pays traverse depuis quelques mois.
On reviendra évidemment sur cette catastrophe et sur ce prêt sollicité au FMI. Je voudrais qu'on en dise un mot, mais Aurélie Daher, on a parlé de la centralité évidemment de ce Hezbollah dans le gouvernement actuel. Regardons en face et notamment du côté de Saad Hariri qui a donc perdu le pouvoir, du côté de ce camp sunnite, donc, parce que rappelons-le quand même aux élections de 2018, c'est quand même le courant du futur de Saad Hariri qui était arrivé en tête. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est totalement marginalisé? Est-ce que un retour politique est envisageable? Ou il va falloir s'y faire pendant un moment, en tout cas, il n'aura plus de poids politique.
Alors, il se passe des choses absolument passionnantes sur la scène politique sunnite depuis quelques années, autour effectivement de Saad Hariri et puis de ses tribulations, je ne vais pas dire idéologiques mais ou partisanes, mais en tout cas il a quand même changé de bord, ou du moins il a eu des discours parfois très virulents vers le Hezbollah, pour finir finalement un peu le premier ministre du Hezbollah à partir de 2016. Il se passe quelque chose de très intéressant parce que on avait vu
le premier ministre du Liban,
oui. Enfin, celui qui a démissionné en l'occurrence au mois d'octobre et qui est le fils de Rafik Hariri, assassiné en 2005. Et effectivement, lui, il a commencé en 2005 avec l'effort de l'héritage de son père, donc très populaire au sein de la communauté sunnite. Et puis, à travers un certain nombre de déboires, à travers un certain nombre de difficultés face au 8 mars, puis il y a aussi une communauté internationale qui a progressivement retiré son soutien à la coalition du 14 mars, notamment la fin des années Chirac, l'arrivée de Sarkozy côté français, la fin des années néoconservatrices de Bush, l'arrivée d'Obama qui voulait absolument se rabibocher avec l'Iran. Tout ça, ça a été très mauvais pour le camp du 14 mars et donc aussi pour Hariri. Il y a eu effectivement toute la question du tribunal. Est-ce que Bachar est celui qui a commandité l'assassinat de Hariri? Donc à partir de là, le fils a tenu des discours très virulents contre Bachar pour finalement pouvoir être à nouveau premier ministre au Liban, mais il a fallu qu'il montre patte blanche et qu'il baisse un peu le volume face à Damas. Sans ça, il n'aurait jamais eu l'aval pour devenir premier ministre. Donc, il y a eu un certain nombre de contradictions. Il a fait des allers-retours entre j'aime pas Bachar et finalement je peux m'accommoder de Bachar. Puis pareil avec le Hezbollah. Le Hezbollah est responsable tous les maux. Non, ben finalement le Hezbollah ça va. Et aujourd'hui, c'est vrai que à travers sa démission au mois d'octobre 2019, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est auto-éjecté du jeu politique.
On l'a quand même bien aidé. On l'a quand même bien aidé. On l'a mis dehors. Il y avait quand même des centaines de personnes, des milliers de personnes dehors qui demandaient à ce qu'ils partent.
Oui, sauf que c'est pas la première fois qu'on a des centaines de milliers de personnes qui demandent le départ d'un premier ministre et il ne part pas. Et tout le monde autour de lui lui ont dit surtout ne part pas. Tiens. Y compris le camp Hezbollah, Hamal, CPL, tout le monde lui a dit il faut que tu tiennes. Bon, il a décidé de partir. Bon, en plus il était par ailleurs en position un peu faible. Il y avait cette histoire de la fameuse Candice, le chèque des 16 millions qu'il avait fait pour une top modèle sud-africaine. Bon, bref, il était vraiment pas dans une situation pour faire de la résistance. Il a préféré faire profil bas et se retirer. Pas de problème, mais il n'en est pas moins vrai que, du coup, sur la scène politique sunnite, il a créé un vacuum en termes de leadership. C'est là qu'on s'est rendu compte aussi que, finalement, la politique du père avait porté ses fruits. On ne l'avait pas vu, mais le père, quand il est arrivé en 92, c'était un outsider sur la scène politique sunnite. Et puis, il a progressivement, à élection législative après élection législative, il a soit clientélisé les chefs sunnites traditionnels, soit il les a éjectés du jeu. Résultat des courses, il y a eu un monopole autour de la famille Hariri du leadership sunnite qui fait que quand le fils est parti, il n'y avait plus personne. Et on l'a bien vu au moment où il a fallu trouver un nouveau premier ministrable, on l'a vu à l'automne. On a proposé un nom, un deuxième nom, un troisième nom et à chaque fois ça a été rejeté par les protestataires parce que, à juste titre d'ailleurs, les protestataires disaient mais non, mais c'est un client de Hariri, c'est un client de Hariri. Et là, on voit une espèce de tentative du frère, du grand frère, Baha, qui avait déjà été repéré par l'Arabie Saoudite en 2017, au moment où, en l'occurrence, les Saoudiens enlevaient Saad Hariri et le forçait à la démission. Vous vous souvenez de cette saga qui a failli d'ailleurs faire péter tout le Moyen-Orient et qui a complètement capoté. Et déjà, les Saoudiens à l'époque pensaient mettre Baha, le frère aîné de Saad, qui était perçu à l'époque comme étant plus faucon que colombe et qui allait, lui, qui devait en tout cas taper du poing sur la table face à la mainmise du Hezbollah sur la politique libanaise. Et là, on voit, il y a une espèce de fracture au niveau, une nouvelle compétition au niveau de la famille Hariri entre les deux frères pour reprendre le leadership de la communauté et reprendre la main sur le poste de Premier ministre.
Je vais faire tourner la parole à Ziad Majed. Je suis sûr que sur ce point-là, vous voulez réagir, donc je vais vous faire réagir. Mais après, j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger un tout petit peu sur le FMI et ce plan de secours financier parce que c'est l'urgence du moment. Mais c'est intéressant ce que dit Aurélie Daher parce qu'il y a eu effectivement cette manière chez les Hariri, au fond, de mettre totalement la main mise sur ce camp politique sunnite. Et aujourd'hui, on voit le déséquilibre que ça crée dans le paysage politique libanais. Comment vous voyez les choses évoluer, Ziad Majed? Est-ce que, effectivement, on va avoir un retour du camp Hariri? Est-ce que on pourrait avoir une nouvelle figure de ce monde politique sunnite libanais qui émergerait? Comment vous voyez les choses? Parce que, évidemment, ça crée un vide et donc un déséquilibre.
Alors, il faut juste rappeler que historiquement, depuis la guerre civile libanaise, il y a eu un phénomène de monopolisation ou de monopole de la représentation confessionnelle. Et le système libanais qu'on appelle système consociatif est un système de partage de pouvoir entre les représentants des communautés. Mais ces représentants-là, avant, étaient assez différents, divers. Dans chaque communauté, il y avait plusieurs notables partis politiques. Il y avait toujours des possibilités de choix. Et il y avait toujours des rivalités entre notables d'une certaine ville face à des notables d'une autre. Donc il y avait une vie politique, je ne veux pas dire normale, parce qu'elle a toujours été confessionnalisée, mais qui permettait beaucoup plus de diversité et de choix au sein de chaque communauté. Avec la guerre civile et puis dans l'après-guerre, il y a eu un phénomène d'une montée en puissance d'un seul groupe qui souhaitait monopoliser la représentation de sa communauté en pensant que cela allait consolider la communauté elle-même au niveau de ses réseaux de clientélisme, au niveau des postes dans l'État. On a vu cela avec les chrétiens, avec la montée d'un certain Bachir Jmaïl, ce qui continue aujourd'hui dans la rivalité entre Michel Aoun, le président de la République, et Samir Jarjar, son rival, qui a hérité du leadership des forces libanaises. On l'a vu également dans la communauté chiite avec la montée du mouvement Amal et puis l'arrivée en puissance de Hezbollah qui aujourd'hui à eux deux monopolise également la représentation des chiites. Et on l'a vu avec la famille Hariri, avec la famille Jumblat chez les druzes et avec la famille Hariri chez les sunnites. Sauf que les sunnites qui sont dans toutes les villes du pays et qui sont une des plus grandes communautés au niveau démographique ne peuvent pas se contenter d'avoir juste une seule famille qui les représente. Et donc, il y a parfois des rivalités. Il y a aussi une politique que le régime syrien a adoptée pendant longtemps et que Hezbollah adopte aujourd'hui à les fracturer pour jouer les uns contre les autres, comme eux, ils essayent de le faire également chez les autres communautés, mais avec moins de succès. Et puis, il y avait l'Arabie saoudite qui soutenait Rafiq al-Hariri et qui a soutenu son fils après son assassinat, Saad al-Hariri, et qui ne le soutient plus depuis la montée en Arabie de Mohammed bin Salman, qui ne le prend pas au sérieux, qui l'a même kidnappé, si vous vous rappelez. Oui. Et de temps à autre, il invite son frère à se montrer comme un possible rival. Ceci dit, le camp Hariri reste jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que les élections prouvent le contraire, le camp le plus populaire parmi les sunnites. Et donc, dans le système confessionnel libanais, les autres chefs des communautés doivent faire avec lui. Hezbollah a voulu l'utiliser pendant longtemps comme interlocuteur avec certains pays arabes et avec l'Occident. Depuis 2019, ce n'est plus le cas. Il avait déjà été affaibli à partir de 2015-2016 par l'abandon saoudien, mais également par un moins d'intérêt, disons, américain, voire français, de ce qui se passait dans la région. Aujourd'hui, il y a au niveau de la sociologie politique sunnite quelques transformations, mais qui ne changent pas cette réalité haririenne jusqu'à nouvel ordre, disons, comme dans les autres communautés où il y a toujours un monopole à la fois du clientélisme, de la représentation au sein des institutions et d'un acharnement chez toute la classe politique de rendre tout renouveau et tout changement extrêmement difficile à travers une loi électorale qu'ils contrôlent, à travers la distribution de ce qui restait de la rente de l'État à leur base de soutien, et à travers une culture politique qui, à chaque fois qu'il y a un élan citoyen, fait tout pour l'étouffer et pour de nouveau imposer l'ordre confessionnel qui est assez fort chez une partie des Libanais aussi.
Alors cette transformation, justement, elle pourrait venir par l'urgence financière, bancaire, qui touche aujourd'hui le pays. Aurélie Daher, ce gouvernement libanais qui veut solliciter un prêt du FMI de près de 10 milliards de dollars. Il y a eu beaucoup de réunions ces derniers jours. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un premier volet qui est où est-ce qu'on a des discussions? Est-ce que ce prêt pourrait permettre au pays de sortir de cette catastrophe économique, financière, bancaire dans laquelle il est, et quel effet ça pourrait avoir? Parce qu'on se dit que si le FMI accorde un prêt, ça sera sous condition. On imagine notamment peut-être qu'il va falloir remettre un petit peu à plat le système de financement des partis, et on se demande quelles conséquences politiques ça pourrait avoir. Aurélie Daher.
Absolument. Cette histoire d'une intervention du FMI pour proposer un plan de sauvetage pour le Liban inquiète énormément, tant autant de la société qu'au niveau de la société qu'au niveau de la classe politique. Au niveau de la société, évidemment, on a les exemples grecs et les exemples chypriotes qui font surtout craindre un haircut, ce qu'on appelle un haircut extrêmement brutal qui frapperait évidemment surtout les petits épargnants ou les moyens épargnants. Et ça amènerait un schéma similaire à tous les déposants qui avaient fait confiance à Madoff, c'est-à-dire grosso modo les économies de votre vie vont être sérieusement rognées, voire vont complètement disparaître. Donc là, ça va être une tragédie sociale absolument, mais vraiment de taille extra large, j'ai envie de dire. Après, il y a des inquiétudes au niveau politique. Évidemment, le Hezbollah, au demeurant, les a exprimées très explicitement, hein. S'inquiète que une aide économique soit assortie de conditions politiques, évidemment, le visant.
Est-ce que ce serait le plus menacé par l'affaire?
Ce serait très probablement le plus menacé par l'affaire. En même temps, il faut refaire un petit peu d'histoire. C'est pas la première fois. C'est-à-dire que déjà, dans les années 90, et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec ce que disait tout à l'heure Ziad quand il disait que le Hezbollah ne s'est jamais opposé aux politiques d'endettement de Hariri dans les années 90. Je suis désolée, excuse-moi de te corriger Ziad, mais c'est factuellement faux, puisque en l'occurrence, justement, la politique, le choix qui avait été fait par Hariri père de lancer l'endettement au maximum à partir des années 90 pour financer entre autres la reconstruction avait été virulemment critiqué par les députés du Hezbollah régulièrement, et c'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ça fritait entre Hariri et le Hezbollah, en tout cas une des deux principales raisons, et parce que justement Hariri avait fait le pari de penser que cet endettement serait compensé. N'oublions pas, nous sommes dans les années 90, c'est les questions de faire la paix avec Israël. Il y avait l'exemple jordanien, 94, qui donnait bon espoir à Hariri de faire effacer la dette, ou en tout cas d'obtenir une aide financière conséquente de la part des Occidentaux en échange de la signature libanaise sur un traité de paix avec Israël. Donc Hariri y est allé à fond les ballons, allez hop, on dépense, de toute façon tout ça sera bientôt remboursé par la communauté internationale quand on fera la paix avec Israël. Malheureusement, il n'y a pas eu de paix avec Israël, du coup il n'y a pas eu de remboursement, et on s'est retrouvé effectivement avec une dette assez colossale. Et le Hezbollah, déjà à l'époque, avait critiqué énormément en disant il est hors de question que l'on fasse de l'endettement ou que l'on lie l'aide économique internationale à des conditions politiques. Le fait est qu'effectivement la communauté internationale à l'époque avait déjà fait savoir que si vous voulez notre aide, voilà, vous désarmez le Hezbollah ou vous mettez le Hezbollah en laisse ou vous, etc.
Ce qui n'avait pas été
fait. Et on l'a vu même dans les années 2000.
Ce
qui n'a pas été fait, mais on l'a vu aussi dans les années 2000. Israël, les États-Unis ont bloqué un certain nombre d'aides, de dons, même d'aides aussi à l'armée libanaise, avec le même prétexte.
Alors, je vais donner la parole à Ziad Majed. Hein. Je suis obligé pour que vous puissiez répondre. Je vous demanderai, s'il vous plaît, Ziad, une réponse relativement courte pour qu'on puisse accueillir ensuite notre nouvel invité, Tamiras Fakhouri, depuis le Liban. Mais je ne peux pas ne pas vous rendre la parole. Ziad Majed, en quelques mots.
Oui, alors deux choses. Alors pour corriger Aurélie, Hezbollah critiqué, comme la plupart d'ailleurs des partis politiques libanais, la politique de Hariri, mais au niveau de leur bloc parlementaire qui faisait partie du bloc de la libération et du développement présidé par Berri, ils ont toujours approuvé les budgets de l'État libanais, donc de la politique haririenne, et puis il sortait la critiquer dehors, et il est vrai qu'ils étaient inquiets, mais ils faisaient partie d'un consensus de cette classe politique qui avait soutenu les politiques d'endettement de Hariri, même en le critiquant, mais au niveau du vote dans le Parlement, c'était toujours soit voter pour, soit s'abstenir. Mais jamais il y a eu au sein du Parlement une politique claire de refus. C'était beaucoup plus dans les discours. Et tout le monde au Liban fait des discours qui ne traduisent pas vraiment la réalité de leur pratique politique. Maintenant, par rapport au FMI aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une très grande crainte au niveau de la société que les politiques qu'on connaît, la même approche va s'appliquer à un pays en l'obligeant à vendre une partie des institutions publiques, à faire le haircut au niveau des banques qui peuvent ne pas toujours toucher les plus riches, avec un budget qui va diminuer au niveau de la santé, de l'éducation, les recettes traditionnelles. Mais en même temps, même cela n'est pas garanti. C'est-à-dire le FMI a beaucoup de conditions avant même d'injecter quelques milliards de dollars dans l'économie libanaise. Et ce n'est pas sûr que la classe politique actuelle ait est capable de respecter ces conditions, que ce soit au niveau de l'électricité, que ce soit au niveau de quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui est le trafic illégal entre le Liban et la Syrie que Hezbollah contrôle et dirige, au niveau de l'essence, au niveau des dollars même, et au niveau de certains produits qui sont sanctionnés dans les pressions qui se font contre le régime de Damas. Donc il y a beaucoup de conditions du Fonds monétaire international que la classe politique ne peut pas respecter.
Sans compter que ces 10 milliards de dollars, Ziad Majed, ils sont loin de suffire à sortir le pays de cette catastrophe économique. On était avec vous, Ziad Majed, et vous, Aurélie Dair, dans cette série consacrée aux colères sociales. On parle ce matin du Liban, on va s'intéresser en particulier aux réfugiés.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va essayer de regarder comment les autorités libanaises ont répondu à l'urgence sanitaire pour les populations de réfugiés des camps. On retrouve depuis le Liban Tamiras Fakhouri. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Ça y est, on vous entend. Vous êtes écrivaine universitaire, professeure à l'Université américaine du Liban et directrice de l'Institut pour la justice sociale et la résolution de conflits de cette université. Merci d'être avec nous ce matin. Je vais vous poser la question tout de suite. Comment est-ce que les autorités libanaises ont géré la crise sanitaire s'agissant des réfugiés, des camps? Est-ce qu'il y a eu des mesures particulières, spécifiques qui ont été prises ou en réalité pas du tout?
Merci, je suis très ravie d'être une des invitées du programme. Donc, dans un commentaire récent que je viens de publier, je souligne que la pandémie de COVID-19, ou l'ère de COVID-19, marque un nouveau chapitre dans l'érosion des droits des réfugiés au Liban. Et là, je vais parler brièvement de la situation des réfugiés syriens, aussi bien d'un point de vue économique et politique que sanitaire. Comme vous le savez, et comme Ziad Majed et Aurélie Dair viennent de souligner, la période d'urgence sanitaire au Liban a eu lieu sur fond de crises économiques sans précédent. Donc, au cours des derniers mois, la livre libanaise connaît une descente vertigineuse vers la dévaluation. En avril, le ministre des Affaires sociales a par exemple souligné que 45% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, dans ce contexte, les moyens de subsistance de base se sont détériorés aussi bien pour les communautés d'accueil que pour les réfugiés. Pourtant, les réfugiés vivaient déjà dans une situation de précarité extrême. Selon une enquête réalisée par des organisations internationales en 2019, les réfugiés syriens se trouvent en situation de vulnérabilité et pauvreté extrême au Liban. Donc, la pandémie a exacerbé leur appauvrissement. Et pour eux, concrètement parlant, le COVID-19 signifie qu'ils sont confrontés aux conséquences du sous-financement, de l'exclusion sociale et de la pauvreté chronique.
Concrètement, quelle forme ça prend, Tamiras Fakhouri, s'agissant par exemple de cette crise sanitaire? On sait qu'au Liban, c'est très particulier parce que les autorités ne reconnaissent pas les réfugiés comme tels, au sens en tout cas de la Convention de Genève de 1951. Donc en réalité, il ne s'agit pas de réfugiés, il s'agit de déplacés, voire de migrants, voire d'invisibles. Mais en tout cas, pas de réfugiés au sens de la Convention de Genève. Donc concrètement, quelles conséquences ça a? Si on parle de la crise sanitaire, est-ce que par exemple ces réfugiés ont accès à l'hôpital?
Oui, je vais aborder ce thème très brièvement. Il est important d'ajouter ici que la classe politique n'a pas vraiment intégré les réfugiés dans la politique nationale formelle qui a été développée pour lutter contre la pandémie. Le ministre de la Santé a appelé la communauté internationale plutôt à assumer la responsabilité du traitement des réfugiés syriens et palestiniens. Durant la période de confinement, les réfugiés ont été exclus des politiques nationales libanaises visant à gérer l'urgence sanitaire. Et ça a eu plusieurs conséquences. Premièrement, comme beaucoup d'entre eux vivent dans des espaces densément peuplés, des camps ou des tentes informelles ou des logements privés, ils n'ont pas eu le luxe du confinement ou bien du home office. Peut-être que vous le savez que la position politique principale de l'État libanais était rester chez soi et ça ne s'applique pas vraiment aux réfugiés. Et deuxièmement, quand il s'agit des conséquences sanitaires, il faut préciser là que les réfugiés se sont trouvés dans une sorte de limbo, une zone ambivalente quant à leur accès aux services et aux soins de santé. Comme vous l'avez déjà mentionné, le Liban n'a pas signé la convention de 1951. Sa politique d'asile ou de refuge est informelle et incohérente. Et cette politique dépend du financement des acteurs internationaux.
Donc ça veut dire concrètement accès à l'hôpital, oui ou non?
Dans ce cadre, c'est le droit d'accès des réfugiés aux hôpitaux en cas d'urgence nationale est mal défini. Il n'y a pas de cadre cohérent.
Il n'y a pas de règle.
De leur accès à ces services. Et souvent, les acteurs informels dans une localité facilitent ou interdisent leurs accès aux services locaux. Et en outre, il est très important de préciser que leur capacité à obtenir des soins de santé dépend de plusieurs facteurs. C'est-à-dire s'ils sont enregistrés comme réfugiés par l'Agence des Nations Unies, s'ils sont sans permis de séjour ou s'ils ont un permis de résidence de travail après avoir trouvé un CAFIL ou un garant local. Donc, ça fluctue, c'est très ambigu.
On va revenir justement sur ce concept de CAFIL que vous venez d'utiliser, parce qu'il y a effectivement un système quasi esclavagiste, on va le dire, qui a été révélé par la crise. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, je voudrais peut-être faire réagir très rapidement Ziane Majed sur cette question des réfugiés. C'est vrai que là, on voit qu'ils ont été littéralement abandonnés dans cette crise, mais en réalité, ils le sont depuis toujours au Liban, ces réfugiés. Est-ce qu'ils avaient, Ziane Majed, participé au mouvement de contestation qu'on a vu ces derniers mois au Liban? Et est-ce qu'on peut espérer une évolution de leurs conditions de vie, de leur statut, à la faveur justement de ces contestations sociales, Ziane Majed?
Alors, comme vous l'avez dit, et comme l'a souligné Tamiraz Fakhouri, il n'y a pas de statut de réfugié au Liban. Cela depuis 1949, avec l'arrivée des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens suite à la Nakba de 48. Donc depuis, les Palestiniens sont dans des camps et ils n'ont pas accès à 77 métiers au Liban. Ils n'ont pas le droit d'avoir des propriétés. La circulation est très difficile. Et à cela se sont ajoutés des réfugiés irakiens. Et puis surtout maintenant des réfugiés syriens, plus d'un million peut-être de réfugiés syriens au Liban, qui eux aussi ont des conditions extrêmement difficiles, avec beaucoup de discrimination, avec des municipalités qui imposent des couvre-feux bien avant le Covid-19. Et avec le Covid-19, la situation est devenue encore plus difficile, vu la pression, vu des accusations qui ont été faites par des politiques libanais face à ces réfugiés-là. Et le problème par rapport au droit du retour, qu'ils soient en Palestine ou en Syrie, est aujourd'hui le même. Il y a une impossibilité de les voir entrer, il y a une impossibilité de les voir partir vers des pays occidentaux ou même en Turquie ou en Jordanie. Donc ils sont dans le pays. Et la classe politique libanaise ne montre que du racisme, de la discrimination. Et pour le moment, il n'y a pas une solution ou il n'y a pas un projet qui prouve que cela va changer. Ils les utilisent juste pour les accuser, à tort souvent, d'être la cause de la crise actuelle. Ils veulent les utiliser aussi pour avoir de l'aide de la communauté internationale. Puis il y a eu une ministre dans ce gouvernement qui s'est félicité du fait qu'une partie de l'aide internationale n'a pas été utilisée pour les réfugiés, mais qu'elle a réussi à la préserver pour les Libanais. Donc c'est un enjeu évidemment très important, et c'est vrai qu'il y a un poids démographique non négligeable, mais il y a surtout une gestion de la part de la classe politique qui est honteuse et qui ne fait qu'accumuler les problèmes au lieu d'essayer de trouver des moyens pour peut-être impliquer certains réfugiés dans le processus économique. Il y a des individus qui ont participé aux manifestations, mais les réfugiés ont très peur d'être arrêtés et donc d'être aussi maltraités puisque la loi ne les protège pas. Et très peu sont les avocats, même s'il y en a beaucoup d'avocats courageux, qui sont mobilisés après gratuitement pour les aider et les soutenir.
Aurélie Daher, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce discours du côté des autorités libanaises selon lequel ces réfugiés seraient une charge pour le pays, oubliant qu'ils sont aussi une richesse. Aurélie Daher, vous pensez que ça pourrait changer ?
Non, malheureusement, je ne le crois pas. Et puis, pour compléter ce que disait Ziad et ce que disait Madame Fakhouri, en fait, moi, ce que j'ai vu à Noël, j'étais absolument atterrée, hein, mais un phénomène sociologique tout bête, c'est que la crise actuelle, la crise bancaire et la crise du Covid, paradoxalement, a encore fait monter le degré d'animosité, notamment au niveau de la population, à l'encontre des réfugiés syriens. Moi, ce que j'ai vu, par exemple, en l'occurrence, à Noël et les discours que j'entendais quand je suis allée au Liban, c'était que, alors que les Libanais, eux, n'avaient plus un rond à cause de la crise et ne pouvaient pas toucher leur salaire, donc on fait un Noël, c'est un des Noëls les plus misérables qu'a connu le Liban contemporain. Il n'y avait absolument personne dans les supermarchés encore la veille pour faire les achats, pour faire le déjeuner, le dîner du réveillon. Il y avait absolument et les seuls qui étaient, en fait, qui faisaient vivre les supérettes et les supermarchés et qui achetaient de quoi faire un dîner, c'était les Syriens. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient les bons d'achat, les tickets rationnants, etc., qui étaient accordés par donc l'UNHCR. Et ça a vraiment mis les Libanais, le Libanais moyen, très en colère. Et ça a fait encore monter le sentiment d'animosité, ce sentiment que oui, on parle son, parce que il y a un discours chez les Libanais qui est que on parle tout le temps des pauvres Syriens malheureux, etc. Mais au final, économiquement, ils s'en sortent mieux que nous.
Oui, donc il n'y a pas vraiment de raison que ça change. En tout cas, ce n'est pas les signaux qu'on a, Aurélie Daher. Merci beaucoup à Tamiras Fakhouri, qui était avec nous en direct du Liban. L'ensemble de la société libanaise est frappée, évidemment, par cette crise économique, par cette dévaluation de la livre dont on a parlé. C'est une situation qui entraîne des conséquences absolument dramatiques pour les invisibles du Liban, comme ces réfugiés, mais aussi pour ces travailleurs, et en particulier ces travailleuses, et en particulier ces employés pour les tâches domestiques dans des foyers qui aujourd'hui n'ont plus les moyens de se payer leurs services. Résultat, eh bien, se retrouvent abandonnés à leur propre sort.
Notre place n'est pas ici. Si madame n'a plus d'argent, elle doit tout de même acheter un billet d'avion pour nous permettre de quitter le pays. Parce qu'elle est kafile, même les poubelles ont une place. Nous ne sommes pas des ordures, mais des humains, ok? Nous aussi, nous avons un pays. Notre ambassade doit nous aider en parlant aux autorités libanaises pour leur demander de nous renvoyer chez nous. C'est ce que toutes les filles disent ici. On veut partir, mais personne ne nous écoute.
Voilà, extrait d'un reportage de Beirut Today. Il y a quelques jours, ces dernières semaines, de nombreuses Éthiopiennes employées comme domestiques se sont retrouvées littéralement larguées devant leur consulat, abandonnées par leurs employeurs. Ces femmes se retrouvent éjectées d'un système appelé kafala, qui signifie garantir en arabe. On va essayer de savoir un peu plus sur ce système. Assad Dada, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe chargé de recherche au CNRS. Il y a un récent rapport d'Amnesty International qui a pointé du doigt la situation de ces travailleuses domestiques prises au piège comme ça dans le pays après avoir été licenciées en raison de l'intensification de la crise économique, évidemment. D'un coup, elles sont devenues visibles puisqu'elles étaient rassemblées comme ça devant le consulat d'Éthiopie sans papier, sans argent, en espérant leur rapatriement. Est-ce qu'on a d'abord une toute petite idée du nombre de personnes que ça représente? Et surtout, comment les autorités comptent répondre à ce drame humain, à Assaf Dada?
Alors, c'est assez difficile d'estimer la population exacte des travailleurs étrangers et des travailleuses étrangères au Liban, comme c'est le cas d'ailleurs pour les Syriens. Officiellement, la Sûreté Générale, qui est la gardienne des frontières libanaises, estime qu'on a entre 150 000 et 175 000 personnes originaires du monde indien ou de l'Éthiopie qui travaillent au Liban. Mais ça invisibilise complètement toutes ces personnes qui sont sorties du cadre légal ou paralégal de la kafala. Et donc, ils sont présents depuis de nombreuses années, qui travaillent et vivent à Beyrouth, notamment, et qui aujourd'hui, en fait, deviennent plus visibles, mais pour qui vit à Beyrouth, et notamment dans les quartiers pauvres de la périphérie, on a toujours pu voir ces personnes qui sont présentes et vivent là-bas et qui sont des acteurs économiques et sociaux très importants.
On va s'occuper de ces gens-là qui aujourd'hui sont totalement abandonnés. Je crois que le ministère du Travail a dit qu'il allait mener des enquêtes sur les employeurs. On peut y croire ou pas du tout?
Depuis des décennies, en fait, l'État ne fait rien du tout à part assurer un turnover de la main-d'œuvre étrangère, qu'elle soit syrienne ou non-arabe pour les employeurs libanais. Et son objectif unique est celui-ci, donc assurer la protection de ces personnes-là au détriment de la protection judiciaire des Libanais. Je pense que ça serait mal compris après des décennies d'exploitation. Aujourd'hui, c'est uniquement un petit peu un coup médiatique, mais depuis des décennies, en fait, ce sont des personnes qui sont maltraitées. Et à chaque fois qu'il s'agissait, ou presque, de porter en justice des cas, l'État n'a rien fait, ou presque.
C'est des personnes qui sont employées dans le cadre d'un contrat, je mets des guillemets, qu'on appelle le kafala. Vous nous expliquez comment ça fonctionne, les liens que ça construit entre l'employeur et le travailleur ou la travailleuse, quel cadre légal?
Alors, en fait, c'est un système qui existe dans tout le Moyen-Orient, et quand vous souhaitez travailler en tant qu'étranger au Qatar ou au Liban ou en Arabie Saoudite, vous êtes sous la responsabilité d'un kafil. Et ce kafil-là, en fait, est d'une certaine manière le sous-traitant de l'État. qui donc lui sous-traite le contrôle social et spatial de personnes, de la personne ou des personnes qu'elle emploie. Et donc aujourd'hui, ces CAFIL, qui ont toujours été très protégés par l'État et les agences de recrutement qui servent d'intermédiaire dans l'importation et exportation de la main-d'œuvre étrangère, ces CAFIL-là ont toujours presque détenu les passeports de leurs employés, ne respectant pas généralement non plus le code du travail quand il s'appliquait à ses employés. Et donc cette CAFA-là, en fait, elle permet aux employeurs de pouvoir se débarrasser de leurs employés ou de ne plus payer ou de beaucoup moins les payer quand ça les arrange. Et donc aujourd'hui, le contexte de la crise économique ne fait qu'amplifier en fait ces dérives qui existent depuis des années déjà.
Oui, on confisque les passeports, on oblige ces femmes à vivre sous le toit de l'employeur. Bref, il y a effectivement un détournement de ce système de kafala, en tout cas dans les pratiques. Il y a par ailleurs, vous dites, Asaf Dada, qu'à ce système qui s'applique à tous les travailleurs, travailleuses étrangers, s'ajoute aussi une hiérarchisation ethno-genrée. C'est quoi les critères qui construisent justement cette hiérarchisation ethno-genrée?
Alors, de façon générale, la kafala fait que on a une hiérarchisation qui s'applique à la fois en fonction des origines sociales, des postes que vous allez occuper, du sexe, mais aussi des origines nationales. Donc, si vous êtes manager d'une entreprise dans le cadre de la kafala et que vous êtes un homme français, le rapport de votre employeur sera beaucoup plus agréable et protecteur que si vous êtes une femme originaire du Bangladesh qui venait travailler comme domestique. Et donc, les conséquences pour ces femmes-là vont être beaucoup plus dramatiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler d'une hiérarchisation ethno-raciale qui peut parfois même se traduire par des différences de salaire. Mmh. Et donc, on peut, quand vous faites du terrain au Liban, par exemple, on sait par exemple que les femmes philippines seront toujours mieux payées que les femmes bangladaises qui vont être discriminées ou stigmatisées, pardon, pour leur couleur de peau. Mmh.
Oui, et puis par ailleurs, il y a d'autres populations précaires qui dépendent de ce système de kafala. Par exemple, les réfugiés palestiniens qui sont arrivés depuis longtemps dans les camps font payer des loyers aux travailleurs qui sont arrivés plus récemment. Vous parliez des Philippins, les Bangladais, les Éthiopiens, et qui, eux, sont embauchés par un kafil. Donc en fait, c'est tout un système d'interdépendance qui est en train de s'effondrer là.
Tout à fait. Et en général, donc là, Madame Dorel tout à l'heure parlait de l'appauvrissement des Libanais, mais l'appauvrissement des personnes qui sont déjà extrêmement pauvres et précaires au Liban et sans commune mesure, et sont en général, eux, les premiers à souffrir de cette crise. Et aujourd'hui, en fait, notamment dans les camps palestiniens ou dans les quartiers les plus pauvres des métropoles libanaises, on a des populations immigrées, établies, travailleurs, sans statut, bref, on a une complexité de précarité à la fois statutaire et sociale qui est en train de complètement s'effondrer parce que les uns dépendent des autres et qu'aujourd'hui, plus personne n'a d'argent qui permettait, par exemple, aux réfugiés palestiniens de pouvoir bénéficier d'une rente sur la location d'une chambre ou d'un appartement de la part de Soudanais, d'Éthiopiens ou de Bangladais. Et aujourd'hui, ces personnes-là n'ont plus d'argent pour payer leurs propriétaires, se retrouvent endettés. Et par effet de ricochet, les propriétaires eux-mêmes n'ont plus d'argent non plus et se retrouvent dans une situation de très, très grande précarité.
Vous pensez, en quelques mots, que ça peut mettre un terme, cette crise, à ce système-là où il reviendra dès lors que la situation sera améliorée?
En fait, tant que le système libanais économique ultralibéral est basé sur un système de rente générale, de blanchiment d'argent, de rente sur l'immobilier, mais aussi de rente sur le travail des Syriens depuis longtemps, des Palestiniens aussi, et de la main-d'œuvre africaine ou asiatique, ce système ne peut pas changer. C'est pour ça qu'il faut un changement en profondeur des structures économiques, sociales et politiques du pays.
Merci Asaf Dada.
Thank you.
Un grand merci à nos deux invités, Aurélie Daher et Ziad Majed, qui est avec nous depuis 11h pour nous éclairer sur cette situation au Liban. Il y avait encore plein de choses que j'aurais voulu évoquer avec vous, mais voilà, bah, ça va nous permettre de nous retrouver pour une prochaine émission pour poursuivre tous ces échanges autour du Liban. Je rappelle, Ziad Majed, que vous aviez écrit Dans la tête de Bachar al-Assad chez Actes Sud, et vous, Aurélie Daher, le Hezbollah, mobilisation et pouvoir, c'était au PUF. On mettra évidemment ça en référence sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Également en référence, cette chanteuse libanaise dont on entend le titre là, Samar. Et je vous rappelle que demain à 11h, pas de Culture Monde comme d'habitude, mais un documentaire Toute une vie sur Jean-Marie Tchibao, un documentaire d'Adeline Beving réalisé par Lionel Quentin qui avait été diffusé pour la première fois en 2014.